CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour Politiquement Votre, le rendez-vous politique de CFM Radio. Et les élections sénatoriales qui approchent. Nous sommes à 3 mois de ce scrutin avec les grands électeurs qui seront appelés à renouveler leurs représentants. Notre invité aujourd'hui, c'est Pierre-Antoine Lévy, sénateur du Tarn-et-Garonne depuis 2020 et peut-être candidat à sa réélection. Il va nous le dire. Sa parole est attendue. Avec lui, nous reviendrons sur les défis auxquels sont confrontées les collectivités, sur son bilan de sénateur, sur les enseignements des dernières élections municipales dans le département, particulièrement à Montauban, mais aussi sur les enjeux des prochaines sénatoriales et les perspectives politiques à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Pierre-Antoine Lévy, bonjour.
Bonjour Kader.
Et merci d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio. Bienvenue à vous sur CFM Radio en tout cas. La France, je le disais donc, traverse actuellement un épisode de canicule exceptionnel avec des records qui sont battus les uns après les autres. La nuit la plus chaude jamais enregistrée en France, la température journalière jamais enregistrée en France, particulièrement précoce en tout cas. Est-ce que cette situation, Pierre-Antoine Lévy, elle révèle selon vous un manque d'anticipation de notre pays ?
Bah effectivement, vous venez de le rappeler, les 24, 25 juin et 26 juin sont les journées les plus chaudes jamais relevées depuis la création des prévisions météo. On a eu à peu près 30 degrés en moyenne sur toute la France et sur notre département, plusieurs 45 degrés ressentis, 47 degrés ressentis même lundi ou mardi. Moi j'ai envie de dire d'abord que je pense à toutes les personnes vulnérables, parce que quand vous êtes une personne âgée, que vous êtes chez vous, sans climatisation, sans solution pour rafraîchir, ça doit être terrible. On a des hôpitaux qui commencent à se remplir. Oui. Vous avez vu que le préfet a pris hier un arrêté pour interdire la vente d'alcool, hormis dans les bars, bien sûr, où on peut y avoir des solutions de rafraîchissement, mais tout simplement parce que nos hôpitaux commencent à être remplis de gens qui font des malaises, qui font des arrêts cardiaques, et c'est dû à la canicule. Alors oui, on a manqué d'anticipation, c'est vrai, puisqu'aujourd'hui, maintenant, on commence à se dire... Ben, il va falloir climatiser les écoles, il va falloir climatiser les EHPAD. C'était des postures que nous n'avons pas voulu prendre il y a quelques années pour des mauvaises raisons, des raisons faussement écologistes. Hein, parce que les solutions aujourd'hui de climatisation sont très peu consommatrices en électricité, on le sait. Et donc, il est temps maintenant qu'on prenne le problème à bras le corps.
C'est-à-dire vous êtes partisan d'une climatisation
bien sûr.
À grande échelle ?
On peut, alors, quand on peut mettre des solutions réversibles, que ce soit des solutions, des pompes à chaleur réversibles, des solutions qui soient économes, bien évidemment qu'on peut le faire. Mais quand vous avez aujourd'hui une canicule qui vous tombe dessus, il faut mettre des rafraîchisseurs ou des climatisations, il faut aller vite. Et aujourd'hui, on sait que quand ce sont des installations publiques que l'on doit équiper, ça prend du temps. Et aujourd'hui, du temps, on n'en a pas. Parce que si on doit équiper de clim nos écoles et nos EHPAD en décembre prochain, ça ne sert pas grand-chose. On a interrogé au Sénat plusieurs fois la ministre de la Transition écologique. Elle en a convenu. Il faut changer la règle. Si on doit financer des clims avec des fonds, le fonds vert par exemple, ou des fonds, des subventions, il faut le faire.
Mais au-delà, Pierre-Antoine Lévy, au-delà de l'équipement, j'allais dire, climatiseur ou rafraîchisseur d'air, est-ce qu'au-delà, il n'y a pas une réflexion à plus long terme, structurante, de mode de vie, de transition écologique à adopter dans notre pays ?
Mais aujourd'hui, on a déjà pris des postures.
Oui, mais des postures, c'est des postures.
En lien avec la transition écologique, avec la sobriété, avec le fait que quand on crée des bâtiments, qu'on refait des bâtiments, on les fait des bâtiments avec des matériaux basse consommation. On est très sensible aux économies d'énergie, on met des rafraîchisseurs, vous avez vu, on met des solutions qui n'utilisent pas de climatisation. Mais aujourd'hui, quand vous avez des bâtiments qui datent d'il y a 40 ans, 50 ans, ces solutions ne sont pas adaptées, donc on n'a pas 50 solutions. Si on veut rafraîchir un bâtiment,
il faut climatiser.
Il faut le climatiser, ou il faut lui mettre une solution réversible qui soit capable de rafraîchir le bâtiment dans sa globalité. Et aujourd'hui, ça prend du temps. Donc la solution la plus rapide, c'est de mettre des rafraîchisseurs, de mettre des climatiseurs, de les installer. Alors c'est sûr que c'est compliqué parce que il faut qu'on les ait en volume, mais c'est un problème qui va se répéter, parce que là, on sort d'une vague de chaleur, d'une canicule, et on nous en annonce une autre à partir du 14 juillet.
Ah bon, vous avez cette information ?
C'est ce qu'a dit la ministre au Sénat avant-hier, elle nous a dit il faut se préparer à une autre vague de chaleur dans 15 jours. Donc préparons-nous, mais surtout anticipons.
Dans un département comme le Tarn-et-Garonne, l'eau, elle devient un sujet majeur. Elle va aussi encore plus devenir un enjeu majeur. Faut-il revoir certaines doctrines sur le stockage, sur l'irrigation ?
Bien sûr. Aujourd'hui, de l'eau, il en est tombé jamais autant, oui. Encore une fois, cet hiver comme l'hiver dernier. On l'a vu passer, on ne sait pas la capter, contrairement à nos voisins comme l'Espagne, qui ont créé des retenues et qui arrivent à...
Vous, clairement, vous êtes pour les retenues.
Bien sûr. Aujourd'hui, les civilisations se sont bâties à travers des points d'eau. On part du principe que quand on crée des points d'eau dans certains endroits, on fait partir la faune, on abîme la flore. Alors que souvent, ce sont à partir de ces points d'eau que se reconstituent justement la faune et la flore. Et donc, on a créé des normes quasi impossibles à respecter, parce que faire une retenue aujourd'hui, ça devient mission impossible. Et heureusement que dans le passé, on a créé des retenues qui permettent aujourd'hui de stocker quand même, dans pas mal d'endroits, de l'eau dans notre département. Oui. On n'est pas les plus à plaindre. Mais aujourd'hui, il faut là aussi revoir la norme.
C'est-à-dire que vous êtes partisan
pour assouplir les règles, bien sûr, créer des retenues, faciliter l'instruction des dossiers. Alors je sais que le préfet a été très moteur là-dessus, hein, je peux le dire, avec les syndicats agricoles, puisque j'ai participé à plusieurs réunions, mais il faut que ça avance encore plus vite. Quand vous avez un dossier de création de retenue d'eau, il faut qu'il aille à son terme très rapidement.
C'est le message que vous transmettez, vous
Oui, bien sûr, c'est un message. Aujourd'hui, on est dans une situation où on ne peut pas se permettre de perdre plus de temps. Vous avez vu que le climat, le temps se réchauffe de plus en plus. De l'eau, il y a des secteurs qui en ont, mais des secteurs qui n'en ont pas du tout. Et je rappelle qu'avec toute l'eau qui est tombée cet hiver, on est déjà en restriction. Alerte crise, ce qui veut dire que d'ores et déjà, après quelques jours de canicule, on est déjà en restriction. Ce qui veut dire que si la canicule repart au mois de juillet, on risque d'avoir des contraintes encore plus importantes qui vont encore rendre nos agriculteurs plus en colère, avec de la tension et des tensions sociales qui peuvent arriver.
Qu'on a connu il n'y a pas si longtemps
et qu'on a connu à cause des problèmes d'eau.
Notamment.
Oui, tout à fait.
Pierre-Antoine Lévy, les dernières élections municipales à Montauban ont profondément rebattu les cartes politiques locales entre les alliances de l'entre-deux-tours, les désistements et la victoire très serrée de la majorité sortante conduite par Didier Lallemand. Quel regard vous portez, vous, Pierre-Antoine Lévy, et votre parole est attendue sur cette séquence politique?
Alors moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que Didier Lallemand est maire de Montauban depuis le 22 mars, oui. Comme les 194 autres maires qui ont été élus ce jour-là. Il est maire de tous les Montalbanais. Qu'il ait été élu par 40, 35, 36% comme je l'entends aujourd'hui, il représente l'ensemble des Montalbanais, comme les 194 maires qui aujourd'hui sont aux commandes de leur ville et qui représentent l'ensemble de leurs concitoyens. Ça ne sert à rien donc de vouloir refaire un match qui a déjà été fait. Didier Lallemand l'a gagné. Effectivement, moi j'ai été attentif à ce qui s'est passé, alors je n'étais pas candidat. J'ai accompagné mon frère, comme vous le savez, mon frère qui ne s'est pas qualifié au deuxième tour, donc je n'étais pas candidat, je n'avais pas souhaité me présenter. Mais ce que je voudrais dire aussi aujourd'hui, parce que j'étais assez surpris d'entendre à votre antenne, il y a deux semaines, Thierry Deville qui était candidat aux élections municipales, et en fait, il me rejette la faute sur moi. En fait, si Didier Lallemand a gagné, c'est grâce à moi, s'il a perdu, c'est à cause de moi. Et je trouve que Thierry Deville a un défaut, c'est qu'il ne sait pas se remettre en question. Moi, j'ai fait des élections, j'en ai gagné, j'en ai perdu. Quand j'ai perdu, je n'ai pas cherché à savoir si c'était à la faute de quelqu'un. Je me suis remis en question et j'ai essayé de savoir qu'est-ce que je n'avais pas fait pour gagner. Mais j'ai envie de dire que s'il a perdu, c'est sa faute. En particulier, oui. C'est pas la mienne, c'est sa faute. C'est tout simplement, donc ça ne sert à rien d'aller chercher des responsabilités là où il n'y en a pas. C'est m'accorder beaucoup de pouvoir. J'ai des pouvoirs en tant que sénateur, mais je n'ai pas celui de faire voter 50 ou 47 000 électeurs pour quelqu'un ou non.
Ce qui a surpris, Pierre-Antoine Lévy, c'est votre décision de ne finalement donner aucune consigne de vote dans l'entre-deux-tours. Votre décision, elle a suscité des interrogations, y compris parmi certains de vos amis qui, quelque part, vous reprochent de ne pas voir, surtout quand il y avait un candidat Didier Lallemand qui était coopté, si je puis dire, par Brigitte Barège, laquelle vous aviez quitté avec fracas. Pourquoi à ce moment-là, vous n'avez pas décidé finalement d'appeler à voter, à faire battre en tout cas.
D'abord, je n'ai pas pris position dans cette élection, puisque je vous rappelle que outre Didier Lallemand et Thierry Deville, il y avait Arnaud Hillion, oui. Qui était un candidat tout à fait républicain également, qui a refusé l'alliance avec la France Insoumise. Et donc dans cette élection, ils avaient trois candidats. Je connais bien Didier Lallemand, hein, comme Thierry Deville d'ailleurs, j'ai travaillé 12 ans à ses côtés. Et donc je n'ai pas souhaité donner de consigne de vote parce que je considère que les électeurs sont assez grands, assez matures pour prendre leurs décisions. Par contre, ce que j'ai envie de dire également, c'est que ces mêmes électeurs ont été surpris par certaines alliances entre les deux tours. Parce que, il y a des alliances que j'ai trouvées plutôt contre nature qui se sont produites et qui ont eu peut-être un effet soit accélérateur pour faire gagner quelqu'un, soit un effet dévastateur pour faire perdre quelqu'un et faire accélérer une défaite. Donc, moi, je n'ai pas envie de refaire le match. Vous savez, on a, cette élection, elle est passée.
Elle est passée, mais...
Elle est passée, je suis aujourd'hui, moi, le sénateur des 195 maires du département. Je représente tous les maires du département, quelle que soit leur étiquette politique. Si quelqu'un d'autre que Didier Lamont avait été élu, j'aurais représenté le maire de la même manière.
Alors, votre idée, c'est quoi? De vous placer au-dessus de la mêlée?
Je me place au-dessus de ça. Par contre, je n'accepte plus qu'on me fasse passer pour celui que je ne suis pas. Je ne suis pas un traître. Je n'ai jamais trahi personne. J'étais premier adjoint de la ville de Montauban de 2008 à 2020. J'en suis parti quand j'ai senti que c'était le moment de reprendre ma liberté. Je n'ai jamais cherché à me venger de qui que ce soit. Je remarque que je me fais traiter de traître par Thierry Deville sur votre antenne, avec des sanglots plein la voix. Ça me fait quand même c'est assez surprenant, parce qu'il me semble que Thierry Deville, lui, dans sa carrière politique, a trahi tout le temps. En 2008, en 2022, en 2024, en 2026. Et donc, quand on se présente à une élection, il faut qu'on ait une colonne vertébrale. Moi, j'ai une colonne vertébrale. Je suis dans un courant politique depuis toujours. Je n'ai jamais varié. Et donc, je n'ai pas l'intention de trahir mes idées, trahir ceux qui ont confiance en moi pour gagner une élection. Je préfère perdre une élection dignement qu'en gagner en trichant. Et donc, je n'accepterai plus ces critiques et ce qu'on essaye de laisser infuser sur Montauban en disant que je suis un traître. Je ne suis pas un traître, mais ceux qui me connaissent savent que je ne le suis pas. Et je finirai quand même par quelque chose, si vous me permettez.
Allez-y.
Puisque Thierry Deville a dit également que, les sanglots plein la voix, j'imagine, sur ce plateau, que j'ai été son ami. Mais un ami, on l'accompagne, on l'aide. Je rappelle qu'en 2020, quand je quittais la mairie, je me suis présenté au sénatorial.
C'est justement ce qu'il attendait de vous, en fait, que vous l'aidiez.
Ah, mais il a fait campagne pour me faire battre en 2020. Je vais vous dire qu'il n'y avait pas de problématique municipale. Il aurait pu m'aider à gagner les élections sénatoriales. Bon, il a pris la parole pour haranguer les grands électeurs pour me faire battre. J'ai gagné d'une voix, comme vous le savez. Mais moi, les amis, je n'ai pas la même conception de l'amitié, je tiens à vous le dire. Donc moi, quand j'ai un ami, je le soutiens, je l'aide à gagner, je l'accompagne.
C'est dit, on vous a entendu, Pierre-Antoine.
Merci,
Kader. Sur cette séquence. Donc, une élection, c'est pour la gagner. Dans quasiment 3 mois, presque jour pour jour, il y aura l'élection sénatoriale. Est-ce que vous serez candidat, Pierre-Antoine Lévy?
Je vous annonce que je serai candidat aux prochaines élections sénatoriales, donc je profite de cette émission pour vous l'annoncer. Et je serai accompagné par Sylvie Borel. Dans cette aventure, la maire de Canals depuis 2021. Vous savez, Sylvie est une élue rurale qui est maire depuis 5 ans. Elle a remplacé, vous savez, à la suite du décès d'Alain Ray, qui était mon ami. Alain Ray est décédé en 2021. Et donc, Sylvie a pris la suite d'Alain avec brio, avec vraiment beaucoup de conviction. Et je suis très heureux qu'elle m'accompagne dans cette aventure, parce que c'est un vrai binôme que nous formons, un binôme de ruralité,
un binôme sur le terrain. C'est un choix que vous aviez pris déjà depuis longtemps, ou vous l'avez
décidé? Je l'ai pris il y a quelques temps, je l'ai proposé à l'accepter. J'en profite pour remercier très chaleureusement Christelle Garcia, qui m'a accompagné pendant le premier mandat. Christelle a souhaité arrêter sa fonction de maire, parce que c'était un mandat qui lui prenait beaucoup de temps. Et donc, je reconnais qu'elle m'a beaucoup accompagné durant ce mandat et je tiens à la saluer très, très sincèrement.
En 2020, lorsque vous avez été élu sénateur, la France sortait à peine de la crise, où on y était encore un petit peu en pleine crise sanitaire. 6 ans plus tard, elle traverse une période de crise de forte instabilité politique, ça ne vous a pas échappé, d'accélération du changement climatique, on en a parlé, de tensions budgétaires et de profonde recomposition politique. Est-ce que le métier de sénateur, si je puis dire, c'est aujourd'hui le même qu'au début de votre mandat?
Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que mon premier mandat de sénateur est un mandat très enrichissant et très formateur. Je rappelle que j'ai été élu le 27 septembre 2020. Je suis arrivé au Sénat le 29 et quelques jours après, nous étions en couvre-feu. Donc j'ai déjà commencé ma première crise sur la gestion des crises sanitaires diverses et variées que nous avons vécues sur le Covid, qui ont duré quand même 18 mois. Donc là, il a fallu apprendre rapidement, mettre en place des mesures, voter des lois d'urgence. Et donc ensuite, une fois que nous sommes sortis du Covid, nous avons enchaîné avec la guerre en Ukraine. Et là, on s'est tapé une crise énergétique, une crise politique. Puis il y a eu les élections présidentielles avec l'élection d'Emmanuel Macron pour un deuxième mandat. Mais l'absence de majorité, puisque Elisabeth Borne est devenue première ministre sans une majorité absolue pour pouvoir gouverner, ce qui nous a déjà posé quelques problèmes. Et après, nous arrivons à cette dissolution de 2024, totalement stupide.
Dont on a déjà parlé.
Dont on a déjà parlé, et je ne vais pas revenir, qui n'a pas permis d'avoir une majorité encore moins solide que la précédente.
Alors, le Sénat, vous le connaissez maintenant, ça fait 6 ans que vous y êtes. Il est souvent présenté comme la chambre du temps long, avec de la pondération. Pourtant, les citoyens réclament des réponses immédiates. Comment vous conciliez à la fois ce temps politique, à la fois entre l'urgence d'une réponse à donner et ce temps long qui est de mise au Sénat ?
Je décortiquerai de deux manières. D'abord, il y a le temps long avec la loi qu'il faut voter. Il faut déjà la construire, ensuite la voter au Sénat, la voter à l'Assemblée nationale, trouver un accord entre les deux chambres, parce que si elle est votée de manière différente dans les deux chambres, bah, il faut qu'on la reprenne soit en deuxième lecture, soit qu'on fasse une commission mixte paritaire, et c'est souvent qu'on arrive à un accord, mais il arrive aussi que nous n'arrivons pas à nos fins, en tout cas qu'on n'arrive pas à avoir le texte qu'on veut au départ. Donc ça c'est le temps long. Après il y a le temps court aussi. Moi je reçois des élus, je reçois en permanence également des Tarn-et-Garonnais, à qui j'essaye d'apporter des réponses pratiques, parce que j'ai toujours considéré que mon mandat, c'était pas que d'être représentant de tous les élus, mais de tous les Tarn-et-Garonnais.
Sénateur, c'est un législateur ou c'est un médiateur entre Paris, le territoire?
C'est les deux, parce que Kader, quand vous êtes sur le terrain, en Tarn-et-Garonne, quand j'ai visité toutes les communes, que je rencontre les maires, que je rencontre les élus, je repars avec des dossiers, je repars avec des sujets. Il y a des sujets qui concernent le local, c'est-à-dire c'est des dossiers que j'aide à accompagner en demandant en tout cas en accompagnant les communes sur leurs demandes de subventions au département, à la région, à l'État ou à l'Europe. Mais après, il y a également des sujets qui méritent d'être traduits dans la loi. Et là, il faut qu'on arrive à convaincre notre majorité de voter le texte et ensuite que la loi soit appliquée. Et on l'a fait dans plusieurs cas sur le statut de l'élu. On a été sollicité donc par les élus locaux qui nous ont dit que leur statut était assez précaire, qu'il y avait un problème de retraite, qu'il y avait un problème de sécurité, qu'il y avait un problème de moyens. Donc on a essayé de répondre dans deux lois. Les décrets sont sortis partiellement. On n'est peut-être pas allé assez loin, mais là encore, on s'est heurté à une difficulté de discuter avec l'Assemblée nationale. Donc je pars du principe que les grands électeurs m'accordent à nouveau leur confiance, je continuerai à porter leur voix. Mais pas que des grands électeurs, parce que ça aussi, ce que j'avais dit lorsque j'ai été élu, c'est que je suis élu par des grands électeurs, mais je représente l'ensemble des élus. Et donc moi je me suis mis à disposition de tous les élus, de tous les conseils municipaux. Je considère que quand un élu qui n'est pas grand électeur s'adresse à moi, je dois lui répondre, tout comme un Tarn-et-Garonnais.
Avec le recul, quel dossier vous ressemble le plus, Pierre-Antoine Levic, avec lequel vous dites, c'est exactement pour ça que j'ai souhaité devenir sénateur?
C'est déjà d'avoir réussi à travailler avec tout le monde, tous les élus. Je veux dire, quand un maire me demande mon aide, la dernière chose que je regarde, c'est sa couleur politique. Je regarde le projet qu'il me présente et je regarde comment je peux l'accompagner. Et donc j'ai travaillé avec tous les maires, de toute sensibilité politique, et j'ai fait avancer leur dossier. Et ça, pour moi, c'est ma plus belle des récompenses, parce que quand vous faites un conseil municipal, généralement dans les petites communes, le maire il réunit une équipe, mais ce n'est pas forcément pour qui votent ses conseillers. Il y a des conseillers qui peuvent voter RN, qui peuvent voter socialiste, qui peuvent voter LR, qui peuvent voter écolo. Mais la différence, c'est que quand ils se réunissent pour un projet, ils travaillent tous dans le même sens. Mmh. Et moi, c'est ce que j'ai essayé d'appliquer, en tout cas sur le plan du Tarn-et-Garonne. J'ai essayé de travailler avec tout le monde et de faire avancer tous les dossiers. J'ai considéré que tous les dossiers étaient intelligents et étaient politiquement défendables. Je n'ai pas cherché à savoir si c'était un dossier de gauche ou de droite. Je pars du principe que comme les élus et les maires qui ont été élus et représentent l'ensemble de leurs administrés, je représente l'ensemble des habitants du Tarn-et-Garonne et l'ensemble des élus, même ceux qui n'ont pas voté pour moi. Et je leur dis que n'hésitez pas à s'adresser à moi, parce que de toute façon, je suis leur représentant. Je tiens à cette marque parce que je représente et j'y attache une grande importance.
En septembre prochain, normalement, vous devriez avoir face à vous des concurrents ou des concurrentes. On parle de Brigitte Barrès, qui n'a pas annoncé, sauf erreur, officiellement sa candidature aux élections sénatoriales. Peut-être nous direz-vous si vous avez une information à ce sujet.
Non, aucune.
Peut-être Cécile Roblin, Europe Écologie Les Verts, qui sera sur la ligne de départ. Rodolphe Portelès pour le Parti communiste. Jean-Philippe Béziers, qui était ici à cette même place.
Ça fait.
Et qui nous a dit... vous avoir appelé pour vous présenter sa démarche. Est-ce que vous la comprenez, sa démarche ?
Effectivement, il m'a appelé il y avait environ 2 semaines pour me dire qu'il se présentait aux élections sénatoriales. Bon, je ne vous dirai pas que ça ne m'a pas surpris, bien sûr, ça m'a surpris. Jean-Philippe Béziers, je le connais bien, c'est quelqu'un avec qui je suis en relation très étroite. Bon, c'est son choix. Mmh. Il a décidé de se présenter, c'est la démocratie. Moi, j'accepte toutes les candidatures, vous savez, quand elles sont orientées dans le sens de l'intérêt général. Donc, il y a 8, 9, 10 candidats. Il y en avait 11 la dernière fois. Je les respecte toutes. Et encore une fois, moi je ne suis pas en guerre avec qui que ce soit. Je suis dans une démarche personnel d'essayer d'expliquer ce que je fais dans le cadre de mon mandat. Je peux aujourd'hui dire que j'ai un bilan, un bon bilan. En tout cas, il est considéré comme plutôt bon au niveau national et au niveau local, puisque j'ai des dossiers que j'ai réussi à faire avancer, des gros dossiers que j'ai réussi à avancer et qui ont été même traduits sur le plan législatif. Et donc, c'est ce que je mettrai en avant lorsque j'attaquerai ma campagne. Et ensuite, ce sont les grands électeurs qui décideront, alors à mes consciences, ils décideront si je suis apte à continuer ma mission au sein du Sénat ou si j'ai failli. Et à ce moment-là, ben, j'accepterai le résultat, comme j'ai accepté de perdre des élections et comme j'ai accepté de gagner d'une voix la dernière fois. Vous savez, ça s'est joué à une voix. Et donc, c'est la démocratie, et donc je la respecte.
Pour être complet, donc, je rajoute Annie Hius pour le Parti radical de gauche, et M. Kreis pour le Parti socialiste. Je ne sais pas encore si les élections sont... Enfin, les candidatures sont officielles, mais en tout cas, c'est ceux qui, normalement, devraient être face à vous,
avec toute façon, vous avez
M. François Bonhomme.
Vous avez jusqu'à début septembre pour annoncer votre candidature. Je crois que c'est jusqu'au 10 ou 12 septembre exactement. Donc il peut y avoir encore des candidatures cet été. Moi, je vous rappelle que j'ai annoncé ma candidature au mois d'août.
Brigitte Barrage, vous avez l'info que c'est officiel?
Ah, pas du tout. J'ai lu ce que j'ai lu dans la presse. Pour l'instant, c'est à Brigitte Barrage d'annoncer sa candidature. C'est pas moi, parce que j'ai aucune info là-dessus.
Ok, on lui demandera. Si vous pouviez supprimer une seule contrainte administrative, Pierre-Antoine Lévy, pour les maires, laquelle choisirez-vous? Vous nous avez parlé de l'eau, est-ce qu'il y a d'autres contraintes?
Mais c'est sûr, notamment quand vous faites des dossiers de rénovation de bâtiments ou de construction, de permis de construire, il faut passer par plusieurs services, ça prend du temps, et aujourd'hui, une fois que vous avez décidé de lancer un projet, et quand vous arrivez à le voir réalisé, il se passe 3, 4, 5 ans des fois. Entre-temps, ben, vous avez des crises qui ont fait grimper les matériaux, ce qui veut dire que quand vous partez avec une enveloppe et des subventions potentielles. Vous vous retrouvez deux ans après avec des surcoûts très importants, avec des lots qui sont infructueux et avec des projets qui sont purement et simplement abandonnés puisque les maires n'ont plus les moyens d'autofinancer les 20% qui manquent. Donc, quand ils arrivent au maximum des subventions, bien sûr. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on simplifie les règles et les normes et qu'on permette aux maires de travailler sereinement, de travailler intelligemment et surtout pas qu'ils aient l'impression que l'État fait tout pour les empêcher, alors qu'en plus, dans le département, je tiens à le dire quand même, on a un État qui est plutôt facilitateur. Le préfet Roberti et ses équipes ont fait un travail formidable. Le nouveau préfet, je l'ai rencontré, est dans Sébastien Coué, est dans cette suite de vouloir faciliter le travail des élus. Et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien.
À votre place.
Oui.
C'est ce qui nous a dit qu'il faciliterait le dialogue avec...
Eh bien, je peux vous dire qu'il le fera. Il en a apporté la démonstration déjà sur quelques dossiers. Je suis persuadé qu'il sera dans cette même lignée que son prédécesseur.
On arrive au terme. Il nous reste encore un peu de temps. Mais je voudrais vous poser une question sur ce qui vous donne encore envie de solliciter la confiance des grands électeurs cette année encore. Qu'est-ce qui vous fait aller encore sur un second mandat?
Mais tout simplement parce que... Je vais vous dire, je me suis posé des questions. Vous savez, quand vous faites de la politique, c'est difficile. Vous prenez des coups qui sont souvent pas mérités. Vous savez, vous me parliez il y a quelques minutes de la campagne municipale. J'en ai pris plein la figure pour parler poliment. J'étais pas candidat. Je me suis fait menacer, insulter, traiter de traître. Bon, vous savez, c'est difficile à vivre pour moi comme pour ma famille, sachant que c'est archi faux. Mais qu'est-ce que j'ai mis dans la balance? J'ai mis tout ce que j'ai pu faire avancer comme projet. La LGV, l'hôpital, Auxirail, le protocole avec les agriculteurs avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et je me suis dit, finalement, il y a encore des choses à faire. Ces projets que j'ai fait avancer, il faut maintenant les voir arriver à maturité, puisque on part du principe que la LGV, c'est 2032, l'hôpital, c'est 2031. Ben, je me dis que ça serait magnifique de voir émerger et sortir de terre ce que j'ai, à mon échelle, réussi à accompagner. Et donc, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. C'est vraiment la défense des élus, la défense des territoires. J'aime les gens. Je le dis, quand je rencontre quelqu'un, j'ai plaisir à le rencontrer. Je fais le tour du département, en long, en large, en travers. C'est pas une contrainte pour moi, c'est un vrai plaisir. Je rencontre des gens de toute sensibilité, de tous horizons, de tous milieux. Et pour moi, c'est la plus belle des récompenses. C'est pour ça que je me représente.
Et vous vous représentez, est-ce que vous êtes confiant pour cette réélection?
Vous savez, je suis
Même si c'est serein. Jamais joué d'avance, surtout une élection sénatoriale.
Vous savez, je suis serein, pourquoi? Parce que j'ai donné toute mon énergie sur ce premier mandat, j'ai travaillé sans compter, j'ai multiplié les déplacements, les manifestations, il n'y a pas une ville que j'ai négligée, et donc je suis serein parce que je considère que j'ai fait ce que je pouvais, et que donc le résultat sera ce qu'il est, et que de toute façon, si je perdais cette élection, ben, je ne pourrais pas me reprocher grand-chose parce que j'ai donné toute mon énergie et tout mon temps. Et voilà. Et donc, si je gagne cette élection, je considérerais ben, finalement que c'est la traduction du travail que j'ai apporté sur le terrain.
Pierre-Antoine Devy, une minute pour avoir votre avis à un an de l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez le sentiment que la France elle cherche davantage une rupture ou une forme de réparation ?
Aujourd'hui, quand vous voyez les différents sondages, il y en a encore un qui est sorti hier, vous voyez que les blocs extrêmes, aujourd'hui, sont très forts. Emmanuel Macron avait mis son mandat, en tout cas le début de son mandat, en disant « je vais faire reculer les extrêmes », force est de constater qu'il les a renforcés. Puisque quand on additionne les voix des différents pôles extrêmes de droite et de gauche, on est à quasiment 60%. Ce qui veut dire que 6 électeurs sur 10 votent extrême.
Bon, oui, mais ils ont les sondages un an avant ne sont jamais...
Mais les sondages un an avant, et on a eu quelques exemples de sondages qui donnaient un candidat gagnant qui, l'année d'après, a perdu.
Bon, hors les sondages,
Pierre. Mais hors les sondages, que je constate quand même sur le terrain, c'est qu'il y a une grande colère. Moi, je le vois, parce que je rencontre des élus, je rencontre des habitants, et donc il y a de Tarn-et-Garonne comme d'ailleurs. Parce que quand on est sénateur d'un département, mais on est élu national. Et donc j'entends qu'il y a une volonté de rupture, mais que finalement, les gens sont déçus du travail qui a été fait dans les dernières années, ils avaient des attentes qui n'ont pas été finalement réalisées. Et aujourd'hui, ils sont prêts à passer le pas en votant un candidat extrême.
Merci.
Nous verrons dans un an ce qu'il en est.
Merci, Pierre-Antoine.
Merci, Kader, pour votre invitation.
Merci, et à très bientôt, donc.
À très bientôt.
Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr